Europe 1, il est 22h. On fait un point sur l'info avec vous, Victor Delande.
Le feu n'est pas complètement maîtrisé, mais on le circonscrit. Donc on va regarder la nuit de manière, non pas décontractée, mais plus simple.
270 hectares partis en fumée dans le sud de la Gironde. Des habitations menacées par les flammes. On fait le point dès le début de ce journal sur cet incendie. Péage gratuit pour les trains de marchandises et ouverture de 3 autoroutes ferroviaires dans le pays. Jean Castex présente son plan pour relancer le fret ferroviaire en France. Plan social annoncé aujourd'hui par le géant de la téléphonie, Nokia. La ministre déléguée à l'industrie a apporté son soutien aux 400 salariés menacés sur le site de Lannion en Bretagne. Les syndicats ont été entendus, mais ils attendent plus du gouvernement.
C'est important. Ça veut dire que le dossier, effectivement, est scruté de près. Ça n'augure forcément de rien de définitif. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la table.
Le coup dur pour le PSG, Mbappé souffre bien d'une entorse à la cheville et pourrait manquer le quart de finale de Ligue des Champions le 12 août prochain. La bourse de Paris clôture en légère baisse ce soir de 0,34% à 4939 points. Météo complète, bien sûr, à la fin du journal avec Valérie Darmon. Et puis, comme chaque soir cet été, on vous proposera un peu de lecture avec les conseils de Stéphane Place. Et puis, on essaiera aussi de trouver l'inspiration avec la bonne idée de Thierry Dagiral.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un feu de forêt est en cours dans le sud de la Gironde, près de la commune du Tuzan. 270 hectares de pins ont été détruits par les flammes. 4 bombardiers d'eau et plus de 220 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur place. Pour le moment, on ne connaît pas l'origine de cet incendie. Le feu n'est pas complètement maîtrisé, mais il ne progresse plus. Il y a donc une bonne nouvelle. Écoutez les précisions d'Éric Suzanne, le sous-préfet de la Gironde.
Ça va un petit peu mieux tout à l'heure, puisqu'il y avait du vent, il n'y en a plus. Non, le feu n'est pas complètement maîtrisé, mais on le circonscrit. Donc on va regarder la nuit de manière, non pas décontractée, mais plus simple. On avait 3 fronts, en fait. 2 qui menaçaient des habitations. On a procédé à une évacuation préventive à cause du risque de fumée. Il n'y a eu aucun blessé. Et on a un troisième endroit qui a été préoccupant puisqu'il y a une centrale photovoltaïque en pleine forêt qui, elle, n'a pas été détruite. On imagine un point de départ, on l'a identifié, mais il y aura une enquête de gendarmerie qui tirera ça au clair et qui regardera. On avait des conditions atmosphériques qui sont très favorables en départ de feu par plusieurs moyens possibles. Il va faire 40 degrés, l'indice feu de forêt est élevé, donc il y a un risque objectivement important. Mais on a surtout une catégorie de végétation jeune, des semis et des jeunes pousses, des jeunes bois, qui sont gorgés de sève, gorgés de résine, et qui alimentent un feu qui est donc propagé par le vent. Et le vent était présent. Donc on va travailler toute la nuit pour le surveiller et empêcher son départ à nouveau, en plusieurs points.
Le sous-préfet Éric Suzanne, joint par Romain Oquet pour Europe 1. Le fret ferroviaire est bel et bien sur les rails, promesse exprimée par le président de la République Emmanuel Macron le 14 juillet et que le Premier ministre Jean Castex cet après-midi a souhaité concrétiser en esquissant ses grands projets. Réduction des frais de péage pour les autoroutes ferroviaires et relance de 3 grandes lignes totalement consacrées aux marchandises, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, le gouvernement continue de verdir son plan de relance avec des annonces très concrètes pour le fret ferroviaire. Cet après-midi, le Premier ministre a dévoilé de premières mesures marquantes de ce qu'il appelle un plan de reconquête ferroviaire pour rendre le rail plus attractif. Jean Castex.
Il y a des péages pour emprunter les sillons, c'est-à-dire les voies que les trains de marchandises empruntent avec les trains de voyageurs. Donc nous avons décidé de la gratuité de ces péages jusqu'à l'année de la fin de l'année 2020 et une division par 2 en 2021 du prix de ces péages.
La mesure va coûter 63 millions d'euros par an à l'État. L'État qui espère ainsi diminuer le nombre de poids lourds sur les routes, 20 000 camions en moins en 2021. Ça représente 425 000 tonnes de CO2 en moins. Autre mesure annoncée, la création d'autoroutes ferroviaires, des liaisons entre Bayonne et Cherbourg, entre Sète et Calais, mais également le fameux train des primeurs entre Perpignan et Rungis qui s'était arrêté il y a quelques semaines. Le Premier ministre souhaite la redémarrer et la prolonger d'Anvers jusqu'à Barcelone. Des appels à projets seront lancés d'ici la fin de l'année.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Le taux de chômage est en baisse au mois de juin, moins 4,6% pour la catégogorie A. Des chiffres en trompe-l'œil car les plans sociaux pourraient se multiplier dans les prochains mois. Comme celui de Nokia, le géant de la téléphonie mobile, entend supprimer 1200 postes en France, dont 400 pour le seul site de Lannion, en Bretagne. Nous ne laisserons pas Lannion mourir à petit feu, commentait dès ce matin la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher. Et la ministre, Johanna Chabas, s'est rendue aujourd'hui en Bretagne pour apporter son soutien aux salariés particulièrement inquiets.
Oui, elle a passé une heure avec l'intersyndicale pour partager avec eux son incompréhension face à ce plan social. Puis elle est allée directement à la rencontre des salariés qui l'attendaient à l'extérieur, où elle a rappelé son opposition aux suppressions de postes.
Notre objectif, c'est de faire en sorte de préserver au maximum les compétences qui sont ici, avec Nokia ou sans Nokia.
Mais elle a été très vite interrompue par un salarié.
Arrêtez le blabla, des promesses concrètes.
Moi, j'agis.
On est en train de tuer la région. Faites quelque chose pour la région.
Car ici, les salariés sont à cran. Le plan social doit supprimer 400 de postes. C'est plus que la moitié des effectifs. Donc beaucoup, ici, pensent que cela signerait la fin du site. Agnès Pannier-Runacher a promis de s'entretenir avec le directeur de Nokia. Et s'il n'écoute pas, d'encourager la concurrence pour reprendre le site. La présence de la ministre aujourd'hui a rassuré les syndicats, comme la CFDT, représentée par Bernard Trémulot.
C'est important. Ça veut dire que le dossier effectivement est scruté de près. D'un côté, c'est rassurant, de l'autre, ça n'augure forcément de rien de définitif. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la table.
Pour continuer les négociations, le gouvernement et les syndicats attendent maintenant l'arrivée du nouveau directeur de Nokia qui prend officiellement ses fonctions le 1er septembre.
Johanna Chabas à Lannion pour Europe 1. Une bonne nouvelle pour les foires et les salons professionnels annulés ou reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Ils pourront reprendre à partir du 1er septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce soir le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, Franck Riester. Une nouvelle barrière a été franchie aujourd'hui dans la pandémie de Covid-19. Le coronavirus a fait plus de 650 000 morts dans le monde. L'Europe reste le continent le plus touché. Justement, en Europe, l'Allemagne prévoit d'imposer des tests aux voyageurs venant de régions à risque. De son côté, la Belgique réduit les regroupements de personnes autorisés jusqu'alors à 15 et qui ne pourront plus dépasser que 5 personnes. Affrontement militaire à la frontière nord d'Israël, parole contre parole. Israël prétend avoir déjoué une tentative d'infiltration terroriste et de son côté, le Hezbollah dément toute participation à des accrochages.
Europe 1, le journal de la nuit. Victor Delande.
Nicolas Sarkozy était tout à l'heure l'invité du journal de 20h de TF1. L'ancien président assure la promotion de son livre « Le temps des tempêtes ». Rédigé pendant le confinement, le livre trace les deux premières années de son quinquennat. Mais on attendait Nicolas Sarkozy sur d'autres sujets, comme par exemple la nomination à Matignon de Jean Castex. Et pour cause, beaucoup ont vu la main de l'ancien chef de l'État dans ce choix. Jean Castex était son secrétaire général adjoint à l'Élysée. Mais Nicolas Sarkozy, vous allez l'entendre, se défend de toute intervention dans le remaniement.
Le président de la République n'est pas un homme sous influence. Et je n'ai aucune influence en la matière. Mais si vous me demandez ce que je pense de Jean Castex, c'est un homme que j'ai toujours apprécié et en qui j'ai toujours eu confiance. Vous croyez quand même pas que je vais changer d'avis parce qu'il est Premier ministre depuis 2 semaines. Ou alors je suis une girouette. Et c'est pas mon genre. Donc, je suis un homme libre. Je ne suis plus dans la politique. Je ne prépare pas un retour. Je ne participe pas au combat politique. J'ai une reconnaissance immense pour tous ces militants et ces amis qui m'ont soutenu dans la difficulté. Mais aujourd'hui, mon devoir, c'est un devoir vis-à-vis du pays que j'ai dirigé pendant 5 ans. Et je ne dois plus être dans le combat politique. Mais Jean Castex, c'est un homme de qualité. J'ai travaillé avec lui, il a travaillé pour moi. Et aujourd'hui, je lui dis mon amitié.
Nicolas Sarkozy était ce soir l'invité du journal de TF1. Le projet de loi bioéthique qui prévoit notamment l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, est revenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au programme, 25 heures de débat parlementaire et 2300 amendements. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est dit fier de porter ce texte cet après-midi. Il a aussi coupé court au bruit selon lesquels le gouvernement voulait faire passer ce projet de loi en catimini pendant l'été. Masque trop cher, désinfectant frelaté. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en dressant son bilan annuel ce matin à Bercy, a précisé avoir effectué 41 600 contrôles, traquant toutes les arnaques liées à l'épidémie. Olivier Samin.
Des contrôles d'abord pour repérer les produits non conformes, qu'il s'agisse des masques, aussi bien chirurgicaux que grand public, avec à la clé 1300 avertissements, qu'il s'agisse aussi des gels hydroalcooliques. Là, comme l'explique Virginie Beaumenier, la directrice de la DGCCRF, les laboratoires de l'administration ont été mis à contribution.
On fait aussi des prélèvements pour s'assurer que les gels sont bien protecteurs et en particulier qu'ils ont bien la dose d'alcool nécessaire. Vous savez que ça doit faire plus de 60%. Et donc on a procédé à 12 retraits rappels de produits qui ne respectaient pas cette règle.
Deuxième champ d'investigation pour la DGCCRF, les prix des masques et du gel et, dans le prolongement, l'apparition sur le marché de produits prétendument miracles.
Globalement, c'est plutôt bien respecté l'encadrement des prix. Il y a quand même parfois des petits dérapages sur les gels en particulier. Et puis on a aussi ciblé sur tout ce qui était arnaque pendant le confinement, les ventes sur internet de faux compléments alimentaires qui protègent, de fausses lampes qui stérilisent. Voilà.
Pour mener toutes ces enquêtes, la répression des fraudes n'a pas agi seule dans son coin. Très rapidement après l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, une task force a été mise en place à Bercy avec les douanes et la gendarmerie, avec pour objectif, entre autres, de partager les signaux faibles repérés sur le terrain.
Merci Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va porter plainte contre le maire de Colombes, le maire écologiste, qui a comparé la semaine dernière la police de Vichy aux forces de l'ordre aujourd'hui. Propos tenus en pleine commémoration de la rafle du Veldiv, propos qui ont depuis fait le tour de la toile et qui sont remontés jusqu'au ministère de l'Intérieur. Une plainte va donc être déposée. En sport, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Diagnostic confirmé pour Kylian Mbappé, l'attaquant vedette du club. C'est bien une entorse à la cheville. Une blessure contractée la semaine dernière en finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. Et le communiqué du Paris Saint-Germain évoque un délai de reprise d'environ 3 semaines. Tout est dans le environ, Christophe Lamarre.
Il y a une part d'intox, sans doute chacun peut apprécier le délai à sa guise, 21 jours ou plutôt 15. On ne peut pas exclure que les médecins se soient donné un peu de marge. Cela va aussi dépendre de la faculté de récupération de l'attaquant français. Il est entré dans la première phase, les soins, il faudra ensuite cicatriser, puis reprendre le chemin de l'entraînement. Tout cela peut-il tenir en 15 jours, c'est-à-dire avant le quart de finale contre l'Atalanta Bergame? Difficile à dire. Pour les dirigeants parisiens, il s'agit aussi de gérer l'absence de la star à l'extérieur et dans le vestiaire. Éviter de faire du feuilleton Mbappé une série en plusieurs épisodes. La cheville de Mbappé ne doit pas devenir la cuisse de Zidane. À l'époque, la blessure du capitaine des Bleus avait pris une importance démesurée lors du Mondial 2002. Il ne faut pas non plus démoraliser les remplaçants. Ils sont justement là pour ça. Remplacer les joueurs absents ou en méforme. Paris et le joueur engagent maintenant une course contre la montre, mais elle devra se faire le plus discrètement possible.
Merci Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Pour les amateurs justement de Ligue des Champions, sachez qu'à partir de la rentrée prochaine, si vous voulez suivre les exploits ou pas des clubs français en Coupe d'Europe, ça sera sur la chaîne Téléfoot et sur RMC Sport. Les groupes Mediapro et Altice sont parvenus aujourd'hui à un accord pour la distribution des matchs. La chaîne Téléfoot que vous retrouvez sur les box SFR. Enfin, après avoir raflé l'organisation mondiale du Mondial de foot en 2022, le Qatar veut aller encore plus loin et vise désormais les Jeux Olympiques de 2032. Le Qatar, nouveau candidat donc, en plus de l'Inde, de Shanghai et de l'État australien du Queensland. Grosse chaleur aujourd'hui sur tout le territoire. Le thermomètre a frisé, voire dépassé aujourd'hui les 40 degrés dans le sud-ouest du pays. Ce fut l'une des journées les plus chaudes depuis le début de l'été, notamment dans les départements du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Cette montée en température est appelée à durer dans les prochaines heures et comme souvent dans ces cas-là depuis la terrible canicule de 2003, on s'inquiète pour les personnes âgées, Pierre Herbulot.
Oui, comme en Haute-Garonne, à Toulouse, très précisément, il a fait jusqu'à 38 degrés aujourd'hui. La mairie a mis en place Allo Senior, une ligne d'appel pour les personnes âgées, des centaines d'inscrits et parmi eux, 223 très précisément sont complètement isolés et donc particulièrement vulnérables. La mairie est en lien permanent avec la préfecture et Météo France pour suivre l'évolution dans les prochains jours de ces fortes chaleurs. Marine Lefebvre, déléguée aux seniors dans la ville, me l'a dit tout à l'heure, tout est prêt pour dégainer le plan canicule.
Là, les équipes sont dans les starting blocks en ce moment. Donc le registre des personnes en situation de fragilité prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on appelle quotidiennement ces personnes. On les appelle le matin, ce qui permet de déclencher l'après-midi une éventuelle visite d'une assistante sociale qui va pouvoir leur apporter un confort matériel, comme par exemple un ventilateur, un pack d'eau, des brumisateurs, mais qui va également pouvoir déclencher éventuellement une hospitalisation via un médecin si c'est nécessaire.
Alors, pour parler de canicule, il faut que pendant 3 jours, les températures atteignent 36 degrés en journée et ne redescendent pas en dessous des 21 la nuit. Ça pourrait bien être le cas dans le sud de la France et en région Rhône-Alpes à partir de jeudi. Un anticyclone devrait faire venir une masse d'air chaud du Sahara et créer une atmosphère suffocante.
Merci Pierre Herbulot. Il est 22h14 sur Europe 1. On jette justement un œil à la météo pour voir si ces températures caniculaires se confirment dans les prochains jours.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo avec vous Valérie Darmon. Et pour demain Valérie, ça se dégrade sur les reliefs.
Et oui, surtout de la Nouvelle-Aquitaine jusque sur la façade est. D'ailleurs, le ciel sera voilé sur l'Occitanie et le Massif central. Ce ciel qui va rester très nuageux ou couvert sur le sud-ouest. Et en début d'après-midi, ce temps qui va se dégrader aussi sur Rhône-Alpes avec l'arrivée des orages sur les Alpes du Nord, sur l'Auvergne et sur le Lyonnais. Ces orages qui seront brefs, forts, avec un risque de grêle et de violentes rafales de vent, en particulier sur les départements alpins. Le pourtour méditerranéen reste à l'écart. Le temps y restera chaud et sec. Sur le nord et dans l'ouest de la France, le ciel va rester calme, peu nuageux en général, un petit peu plus chargé sur le Finistère en matinée. Les températures baissent. Il faut dire qu'aujourd'hui, elles étaient particulièrement élevées puisqu'on avait droit à un pic de chaleur. Les maximales de ce mardi sont donc en baisse. 19 à 24 sur les régions bordant la Manche, 25 à 31 en général ailleurs, 32 à 35 sur le Languedoc, la vallée du Rhône et la Provence.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Victor Delande.
Europe 1 associé à la prestigieuse librairie Mola à Bordeaux pour un troisième été de découverte et de conseils de lecture. Ce soir, Stéphane Place nous présente l'œuvre de Joseph Kessel, enfin réunie dans 2 volumes aux éditions de la Pléiade. Une œuvre sobrement intitulée « Roman et récit ».
Témoin parmi les hommes qui, jusqu'à son dernier souffle, a su conserver sa curiosité et sa capacité d'émerveillement. Le 23 juillet 1979, Joseph Kessel regarde un reportage télévisé sur une expédition spéléologique et dit à l'ami qui se trouve près de lui « Regarde comme le monde est beau ». Ce seront les derniers mots de ce reporter, romancier, aviateur, résistant, académicien de cet ogre littéraire dont la vie embrasse tous les événements majeurs du XXe siècle. 41 ans après sa mort, l'immense Kessel entre enfin dans la prestigieuse collection de la Pléiade. 2 volumes, une petite vingtaine de ses œuvres sélectionnées et un travail remarquable d'une équipe d'universitaires. Sylvain Arestier, libraire chez Mola.
L'intérêt de cette édition, outre son appareil critique conséquent, c'est la présence d'articles qui ne sont pas repris dans certains volumes. Et puis pour les puristes de Kessel, des versions inédites de certains passages de texte. Les universitaires et les auteurs qui ont fait cette édition annotée et critiquée sont allés au plus près des manuscrits. Un texte comme Les Captifs, par exemple, avait été publié en feuilleton dans la revue des Deux Mondes, 6 mois avant sa publication et sa reprise. Et Kessel est un auteur, un des rares auteurs qui a toujours retravaillé ses romans.
Belle de jour, Fortune carrée, La passante du sans-souci, L'armée des ombres, Le lion bien sûr, sont quelques-uns des ouvrages réunis dans ces 2 volumes de la Pléiade. Philippe Baudor a participé à leur élaboration.
2 volumes, cela signifie à peu près 4000 pages. Donc il est clair qu'il fallait faire des choix. Très fortement associé dans cette édition, ce qui relevait de la fiction et ce qui relevait de la non-fiction. Les romans et les reportages, dans la mesure où chez Kessel, les deux sont profondément imbriqués. Par exemple, autour des années 30, marché d'esclaves, une enquête très importante sur la piste des trafiquants d'esclaves que Kessel fait pour Le Matin, qui est sa première grande consécration de reporter à l'époque. Et puis Fortune carrée, qui est le roman qui va se nourrir, je dirais, de tout ce que Kessel a pu recueillir au cours de cette enquête, et puis d'avoir un bon équilibrage de sa production entre, en gros, hein, l'avant-guerre et la Seconde Guerre mondiale qui est dans le premier volume, et l'après-guerre qui est dans le second volume. On a accompagné les textes d'un certain nombre de documents, articles de presse, inédits, interviews, qui viennent mettre un petit peu de lien dans cette édition pour en faire une édition représentative de l'ensemble de la production de Kessel.
Kessel, c'est une trajectoire, une existence d'une intensité extraordinaire, une œuvre qui se confond avec le destin exceptionnel de ce reporter et romancier. en quête permanente de liberté, de fraternité, d'aventure.
Merci Stéphane Place et cette chronique avec la librairie Mola à Bordeaux. Vous la retrouvez tous les jours sur Europe 1. Rendez-vous donc demain pour une autre découverte. Autre rendez-vous estival sur Europe 1, la bonne idée. Tous les soirs avec vous, Thierry Dagiral, nous tirons un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise, se mobilisent et innovent.
Bonsoir Étienne Chauffour.
Bonsoir.
Vous êtes directeur en charge de l'éducation et des solidarités chez France Urbaine et en association avec les maires ruraux. Vous faites partir des mômes en vacances. Racontez-nous.
Exactement. Alors on fait partir des mômes en vacances avec en fait quelque chose de tout simple. On s'est dit qu'on avait dans les territoires urbains beaucoup d'enfants qui ne pourraient pas partir en vacances parce que les séjours étaient annulés, les conditions de transport étaient incertaines, et qu'on avait dans nos territoires ruraux beaucoup de solutions de vacances qui peut-être permettaient simplement de prendre des vacances très sympas à quelques kilomètres d'une grande ville. Donc,
mais c'est un échange du coup d'enfants de la ville contre des enfants des champs, on va dire ?
Même pas un échange, c'est simplement les maires ruraux qui nous ont dit, écoutez, on sait que vous aurez des difficultés pour que les enfants partent en vacances parce qu'à cause du déconfinement, il y aura des centres qui seront fermés. Et chez nous, on a des solutions que vous ne connaissez peut-être pas. Donc, on va les recenser département par département et on va les mettre à votre disposition.
C'est ça.
Dans certains territoires, ils ont dit, ça nous intéresse. Dans d'autres, ils n'en avaient pas besoin. Mais ça permet de multiplier les vacances possibles.
C'est bien. C'est quoi ? Il y a un million, c'est ça, un million d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances cet été ?
C'est à peu près ça. Et avec des difficultés d'autant plus fortes que de multiples endroits de séjour, en fait, n'ont pas pu être déconfinés à temps. Donc, beaucoup de colonies, de centres de vacances ont été annulés. Donc, et on voulait que, pour tout le monde, ça reste des vacances, à plus forte raison après la crise, que l'on puisse vraiment en profiter, quoi. Qu'on ait des loisirs, du tourisme.
On connaissait les vacances apprenantes. Vous parlez de vacances vacançantes ?
Oui, c'est pas pour les opposer. Je pense qu'il y a peut-être des vacances apprenantes, mais en même temps, les vacances vacançantes, c'est l'idée que un enfant, un jeune, alors à plus forte raison, si l'école, c'est pas obligatoirement ce qu'il préfère, si on lui dit vous ne pouvez prendre des vacances que si vous apprenez, on pensait que c'était un tout petit peu trop limité. Et donc nous on a dit il faut les vacances apprenantes pour ceux qui le souhaitent, mais il faut aussi des vacances vacançantes et pourquoi pas des vacances en famille avec les chèques vacances, avec des idées où l'enfant peut partir avec sa famille malgré la situation financière et la crise.
Étienne Chauffour, dernier point pour être complet, il est encore temps de s'inscrire, comment ça se passe, où ?
Alors, il est encore temps de s'inscrire dans la plupart des mairies. Donc, c'est géré en général au niveau de la mairie de la grande ville, mais ça peut être également géré dans la mairie d'un village. Il est encore temps de s'inscrire, d'autant que là aussi, une des idées qui était intéressante, c'est de dire on n'aura peut-être pas la possibilité de partir 3 semaines, mais peut-être 5 jours. Et déjà, 5 jours à la campagne, au bord d'un lac, d'une rivière, c'est fabuleux.
C'est essentiel pour ces enfants. Merci à vous. Bravo à vous.
Merci.
Merci à vous, Étienne Chauffour de France Urbaine.
Bonne soirée.
Merci.
La bonne idée tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Merci Thierry. Dans un instant, on jettera un œil sur les unes de la presse. On va d'abord marquer une petite pause musicale pour vous ce soir. L'artiste français Christophe Maé fait son cinéma avec cette chanson intitulée « La vie d'artiste ». Merci d'écouter Europe 1. À la une de vos quotidiens demain matin, le journal Le Figaro revient sur les annonces de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Fini les terrasses chauffées, notamment à partir de l'hiver 2021. Le Figaro fait aussi un tour d'Europe, des pays qui prennent des mesures pour se protéger du Covid-19. Interdiction de territoire, quarantaine, obligation de test, véritable tour d'Europe que vous trouverez demain matin dans le journal Le Figaro. De son côté, Libération a choisi de mettre à sa une le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, visé par une accusation de viol. Le nouveau ministre de l'Intérieur est devenu la cible des féministes qui multiplient les actions pour réclamer sa démission ces derniers jours. À la une également des Échos, un dossier avec toutes les pistes pour sauver le Made in France en pleine crise économique. Les prix, il en est justement question à la une du Dauphiné Libéré. Le quotidien a repéré que le prix des fruits et des légumes avait terriblement flambé ces dernières semaines. Il est 22h28, l'heure de retrouver Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Victor, comment allez-vous ?
Très bien, et vous ?
Bah écoutez, je suis très content de retrouver tous les lundis, vous voyez, l'antenne d'Europe 1 et de passer ces 2h30 en compagnie de vous à la rédaction et puis bien évidemment de toute cette communauté de la Libre Antenne qui est tous les soirs très fidèle à cette Libre Antenne.
Bonne émission à vous, mon cher Olivier.
À tout à l'heure.